Donc nous allons pouvoir débuter la table ronde proprement dite par les aspects légistiques et politiques. Et je cède immédiatement la parole donc à mademoiselle Mégane Amblard et Ariane Dagorn.
Alors bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde qui portera donc sur la loi pour une république numérique. Ariane et moi-même allons vous présenter les aspects légistiques, compris comme la science de la confection des lois, et les aspects politiques, compris comme la science du gouvernement des hommes. Alors, cette loi a l'ambition de garantir les droits et libertés dans une société qui est en progrès. Et aujourd'hui, c'est clairement le cas. Depuis quelques années, nous sommes au cœur même d'une révolution numérique qui impacte tous les secteurs, du commerce à l'administration jusqu'à même nos modes de vie. Alors cette loi, elle a été promulguée le 7 octobre 2016 et elle fut le fruit d'une réflexion de près de 3 ans. Mais on peut soulever sa rédaction qui fut un petit peu précipitée sur les derniers mois, ce qui n'est certainement pas étranger à l'approche des élections présidentielles d'avril 2017. Alors pour mener à bien cette étude, nous allons considérer cette loi sous le prisme du juriste et l'éclairer par une analyse à la fois politique et légistique. Grâce aux thématiques suivantes, donc l'esprit de la loi, ce qu'elle ambitionne, sa structure, ses sources d'inspiration, son élaboration et sa discussion, son adoption, sa rédaction et son bilan.
Alors, pour commencer, l'esprit de la loi. Donc, la loi pour une république numérique a été portée principalement par Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique, qui, on le verra, a dû vraiment défendre son projet au sein du gouvernement. Alors, ce qu'on constate d'entrée de jeu avec la loi pour une république numérique, c'est qu'elle s'annonce comme relativement ambitieuse, ne serait-ce que par le nom qu'elle porte. C'est une loi pour une république numérique, qu'on a la notion de république, qui met en avant la volonté du gouvernement de construire à travers cette loi la société démocratique et numérique de demain. Cette ambition, elle va également être symbolisée par la présence plutôt originale d'une devise qui reprend en fait à beaucoup de mots près notre devise nationale. Alors je vous la lis, c'est « Liberté d'innover, égalité des droits, fraternité d'un numérique accessible à tous et exemplarité d'un État qui se modernise ». Voilà. Enfin, cette loi vise 3 grands objectifs qui sont la promotion des données et du savoir, protéger les citoyens dans une société digitale et promouvoir l'accès de tous au numérique.
Alors la loi se structure en 4 titres, mais on peut en comptabiliser plutôt 3, car le 4e concerne la transposition des règles à l'outre-mer. Donc nous avons la circulation des données et du savoir, la protection des droits dans la société numérique, l'accès au numérique. Ces titres se décomposent en chapitres. Dans le titre 1, nous allons trouver l'économie de la donnée et l'économie du savoir. Alors, à la seule lecture de ces intitulés, on peut bien se demander la différence entre ces 2 chapitres. Dans le titre 2, nous allons retrouver un environnement ouvert. Même chose, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Plus tard dans la journée, vous allez, avec nos collègues, découvrir qu'il s'agit de commerce en ligne. La protection de la vie privée en ligne, si tant est qu'elle existe réellement. Et dans le titre 3, nous retrouvons 3 chapitres, le numérique et le territoire, la facilitation des usages et l'accès des publics fragiles au numérique. Des intitulés assez vagues qui nous donnent peu d'indications en réalité sur le contenu. Alors au niveau des articles, on peut s'apercevoir que ces 3 titres sont relativement équilibrés avec 39, 29 et 41 articles. Alors au regard de cette structure, on peut légitimement se demander si elle n'a pas été conçue postérieurement à la rédaction de la loi plutôt que antérieurement et a servi de plan permettant d'organiser les thématiques de cette loi.
Donc, concernant les sources de la loi, alors le projet de loi a été nourri par plusieurs textes. Alors tout d'abord des textes nationaux, parmi lesquels, le rapport annuel du Conseil d'État de 2014 sur le numérique et les droits fondamentaux, dans lequel le Conseil formule 50 propositions pour mieux protéger les droits et libertés dans un contexte numérique. Alors parmi ces propositions, on avait notamment le renforcement de la protection des données personnelles, le droit à l'oubli pour les mineurs, que l'on retrouve à l'article 63 de la loi, ou encore la consécration de la neutralité du net. La loi y consacre une section. Alors, suite au rapport du Conseil d'État, a été organisée une concertation nationale qui a été effectuée par le Conseil national du numérique et qui a donné un rapport intitulé « Ambition intime » qui a été remis au Premier ministre en juin 2015 et dans lequel on retrouve 70 propositions. Enfin, ce texte s'est également nourri de sources européennes, parmi lesquelles évidemment le Règlement européen sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Alors la loi, elle vient transposer en fait certains principes qui avaient été adoptés par l'Union européenne, comme par exemple le droit à l'oubli, même si la loi le limite aux mineurs, le droit à la portabilité des données personnelles ou encore le renforcement des sanctions de la CNIL.
Alors la loi, elle a été élaborée selon un processus original et innovant. Il s'agit de la consultation en ligne. Alors ce recours consiste à impliquer le citoyen dans l'élaboration et la discussion de la loi par le biais d'une consultation sur un site internet qui était en l'occurrence république-numérique.fr, sur lequel les internautes avaient l'opportunité de consulter l'avant-projet, de voter sur chacun des articles, de les commenter et même de formuler des propositions. Alors ce recours y contribue fortement à l'aspect démocratique de cette loi. Au niveau des chiffres, on va retrouver plus de 21 000 participants. L'avant-projet qui était consultable se composait de 30 articles. Et suite à la consultation, ce projet est passé à 41 articles. 5 articles sont directement issus de cette consultation. On peut citer à titre d'exemple l'e-sport qui a été plébiscité par les internautes. Pourtant, sous couvert d'une bonne volonté démocratique, nous pouvons soupçonner une certaine forme de marketing politique dissimulé. En effet, parce que l'efficacité de cette consultation est toute relative, en raison notamment du caractère non contraignant des commentaires. En effet, le gouvernement et le Parlement peuvent ne pas prendre en compte les commentaires des internautes et tout simplement passer outre. Nous pouvons mettre également en lumière le manque relatif d'informations au public, car malgré la volonté du gouvernement d'informer au maximum les citoyens de l'existence de cette consultation, je vous l'ai dit précédemment, il y a eu une participation d'un peu plus de 21 000 personnes, ce qui est un chiffre important, mais qui peut paraître relativement faible par rapport au nombre de personnes qui sont concernées par cette loi. De plus, nous pouvons mettre l'accent sur les commentaires qui ont été formulés davantage par des groupes d'intérêt plutôt que par le citoyen lambda que visait initialement la loi. Donc on voit ici sous l'exemple que c'est l'Atelier des données personnelles ou l'INA, Institut national de l'audiovisuel, qui a pu commenter l'un des articles.
Alors, concernant le parcours législatif de la loi, donc le nouveau projet de loi enrichi suite à la consultation en ligne a été présenté par Axel Lemaire en Conseil des ministres le 9 décembre 2015 et il a été déposé à l'Assemblée nationale le même jour. Donc l'Assemblée nationale a adopté le texte le 26 janvier 2016 avec 356 voix pour et une voix contre. En tout, l'Assemblée nationale a ajouté 46 articles au projet de loi. Ensuite, le texte a été transmis au Sénat. Et le Sénat va modifier le texte le 3 mai 2016 avec 322 voix pour et là aussi une seule voix contre. Alors normalement, comme le Sénat a modifié le texte devrait être renvoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, sauf que le gouvernement a fait le choix d'une procédure accélérée. Et donc le Premier ministre a demandé la formation d'une commission mixte paritaire chargée de trouver un texte de compromis. Alors, les travaux de la commission mixte paritaire, elles ont abouti notamment à la suppression de 13 articles qui avaient été adoptés par le Sénat et à la réécriture d'une douzaine d'articles. Alors, parmi les dispositions qui ont été supprimées par la commission mixte paritaire, on peut noter toutes les dispositions anti-Google qui avaient été adoptées par les sénateurs. Alors, il faut savoir que les sénateurs avaient quand même mis dans le projet de loi une définition juridique du terme moteur de recherche qui a donc été supprimée. Et donc, du coup, on se retrouve avec une loi sur le numérique qui ne définit pas le principal outil qui permet l'utilisation d'Internet. Parmi les compromis qui ont été trouvés, on peut noter l'amende maximale infligée par la CNIL, qui est passée à 3 millions d'euros, au lieu des 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entreprises qui étaient voulues par les députés et qui se retrouvent aussi être le montant que l'on trouve dans le règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc la commission mixte paritaire a fait le choix plutôt curieux de ne pas suivre le règlement européen. Alors ensuite, ce texte de compromis a été renvoyé aux deux chambres pour validation. L'Assemblée nationale a adopté le texte le 20 juillet 2016 et le Sénat a fait de même le 28 septembre 2016. Donc les deux chambres sont tombées d'accord et le texte a été promulgué le 7 octobre 2016 par le président de la République. En définitive, on est passé de 48 articles en sortie du Conseil des ministres à 113 articles à la fin de ce parcours législatif. Donc normalement, il est prévu par la Constitution la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel a priori. C'est l'article 61, alinéa 2, qui le prévoit. Donc le président, le Premier ministre, les présidents des deux chambres ou un groupe de 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité du texte à la Constitution. Alors c'est généralement ce qui se passe quand il y a des dispositions assez politiques dans une loi. Ça n'a pas eu lieu pour ce texte-ci, ce qui nous a paru surprenant pour un texte de cette nature qui couvre un des enjeux majeurs de notre société. En tout cas, c'est comme ça que le texte nous a été présenté. Donc pour l'instant, ce texte a une présomption de constitutionnalité. Néanmoins, il peut toujours faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, donc un contrôle a posteriori avec l'article 61-1 de la Constitution.
Alors je vais aborder maintenant la rédaction même de ce texte, car on peut voir qu'elle va faire l'objet de quelques retenues, notamment par exemple dans son style d'écriture à la fois hétérogène et disparate. Vous pouvez le voir dans l'exemple qui s'affiche, l'article 25 et 76 ne sont absolument pas rédigés de la même façon. En effet, l'article 25 va faire référence à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et va se contenter de remplacer certains mots, remplaçant 17 par 18 et informatique par numérique, sans forcément rappeler la teneur de cet article. Et tandis que l'article 76, lui, va rédiger intégralement un article qui peut être compris à sa seule lecture. Cet exemple, il y en a beaucoup dans la loi et il reflète le fait qu'il y a eu plusieurs groupes de travail sur cette loi qui confirme en fait cette hétérogénéité de la loi. Nous relevons également la présence abondante d'articles de renvoi, donc vous l'avez déjà vu précédemment, mais là c'est encore plus flagrant avec l'article 82 qui nous renvoie à trois textes différents. C'est-à-dire que pour comprendre un seul article, il faut avoir à sa disposition quatre textes, ce qui n'est pas bien pratique. Nous relevons aussi une absence de cohérence dans l'organisation, par exemple avec la notion d'accès qu'on va retrouver à la fois dans l'article 41 permettant aux internautes d'accéder depuis un point d'accès Internet à des données publiques et à l'article 108 permettant l'accès à Internet aux internautes n'ayant pas payé leurs factures. Alors, bien que la notion d'accès soit traitée dans des thématiques différentes, on se demande si un regroupement n'aurait pas été possible. Tout cela rend le texte difficilement lisible pour son lecteur. C'est parfois compliqué et on peut même se demander parfois s'il s'agit bien de français. Je vous lis l'article 7, que nous n'avons pas particulièrement bien compris. Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des données relatives aux motifs et à la localisation des matières issues du traitement des déchets est disponible pour une substitution matière. Si vous avez compris.
Donc, quel bilan peut-on tirer de cette loi ? Donc déjà, des aspects positifs quand même, puisqu'on a une loi qui consacre de nouveaux droits numériques. Donc on l'a dit, le droit à l'oubli pour les mineurs, la neutralité du net qui interdit toute discrimination dans l'accès au réseau. Et de même, la loi vient faire d'Internet un bien aussi précieux que l'eau ou l'électricité. Alors malgré tout, cette loi ne répond pas vraiment à l'ambition affichée. On nous l'a présentée comme la loi qui fera face aux grands enjeux numériques actuels. Et en fait, on constate qu'il manque énormément de choses dans cette loi. Alors tout d'abord, il manque une bonne partie concernant l'économie numérique. Alors en réalité, c'est parce que le ministre de l'économie de l'époque, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, monsieur Emmanuel Macron, avait réussi à arracher les sujets relatifs à l'économie pour ce qui était censé être la loi Macron 2, la loi Noé, Nouvelles Opportunités Économiques, une loi qui n'a finalement pas vu le jour suite à l'opposition du premier ministre de l'époque, monsieur Manuel Valls, lui aussi candidat à l'élection présidentielle, enfin anciennement. Et du coup, les dispositions relatives à l'économie ont été ventilées dans plusieurs textes, dont la loi El Khomri, la loi travail, qui a intégré un volet emploi et numérique. Autre grand absent de la loi, la sécurité. Alors ça s'explique notamment par la loi renseignement du 24 juillet 2015 qui est intervenue entre-temps et qui, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, a récupéré toutes les questions relatives au numérique et à la cybercriminalité. On note aussi une absence des questions relatives aux droits d'auteur. Alors, il y a des articles dans la loi, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'on sait très bien qu'il existe beaucoup de problématiques liées à la propriété intellectuelle et à Internet. Alors, il y avait pourtant eu des propositions qui avaient été émises, notamment l'idée d'un espace commun informationnel, une sorte de domaine public numérique, mais qui n'a pas été retenu par le gouvernement. Et ça s'explique surtout par un fort lobbying des industries culturelles, comme l'a montré Megan tout à l'heure avec la consultation en ligne. Les ayants droit sont beaucoup mobilisés et organisés pour la protection des droits d'auteur. Enfin, hormis ces absences, on note surtout un problème d'articulation avec le règlement européen sur la protection des données personnelles. Il y a en effet des incohérences entre des dispositions de la loi et celles qui sont édictées par le règlement, qui laisse à penser que certaines dispositions de la loi seront caduques en mai 2018, année d'entrée en vigueur de ce règlement. Et donc on aura des dispositions dans la loi qui ne serviront plus à grand-chose. Voilà, donc pour conclure, c'est un texte qui était porteur de beaucoup d'espoir, qui avait été pensé pour être une des grandes lois du quinquennat. Et au final, cette loi, elle a un goût un peu amer. Elle se révèle pas très bien écrite, un peu fourre-tout, et en même temps assez vide de sujets qui sont pourtant essentiels dans une société numérique. Voilà, on vous remercie de votre attention.
Bien, merci beaucoup pour cette belle présentation, là encore, de la genèse du projet de loi, de son élaboration. Vous avez bien mis en lumière tous les aléas qui l'ont entouré, qui ont entouré la rédaction et qui expliquent déjà en grande partie cette structure qui nous paraissait si obscure, mais on y voit déjà plus clair.